c'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour à tous.
Le retour, ça fait plaisir, de Joséphine Drey.
Bonjour.
Hey. Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Ben Ragou.
Bonjour.
Et notre invité est Isabelle Mergo.
Formidable.
Isabelle qui publie un nouveau livre, ça s'appelle Un escargot tout chaud et c'est un rapport direct avec la comptine. Voilà, exactement. Vous allez bien, Isabelle? Je suis ravie de vous accueillir.
Ah ben moi je suis très contente d'être
vous
là.
Vous êtes resplendissante.
Ouais. Ouais, ça c'est vrai.
Au saut du lit.
Bonne mine. Bonne mine. Sexy à souhait. C'est
merci
un bonheur de vous avoir à la radio. Maréchal, avez-vous bien compris, Maréchal Ganache, pourquoi Isabelle Mergo était notre invitée?
Affirmatif. Mais permettez-moi, monsieur Nagui, de dire la vérité à madame Mergolt.
Non, Mergo.
Alors, en français, on prononce toutes les lettres, on est chez nous. La raison... Bonjour, madame.
Bonjour.
La raison de votre venue, madame, c'est votre premier roman, ouvrage fort bien troussé, comme vous, que j'ai pris un grand plaisir à lire. Et si Nagui se permet, sur un ton apparemment complice, voire collabo, de me poser la question, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'a rien foutu. La preuve? Vous la voulez, la preuve?
Oui.
Oui, je suis content que vous réagissiez. Eh bien, je l'ai. Alors que j'étais en train de procéder à des ablutions et à des rinçages délicats dans les toilettes handicapées de France Inter, juste avant l'émission, je suis tombé nez à nez justement avec Nagui. Et comme bien naïvement je lui demandais son avis sur votre livre, madame, il m'a répondu en ricanant. Ah, la Mergo!
Oui, je m'étrangle. Oui, c'est ça.
La Mergo, c'est comme ça que Nagui vous appelle. Hein, j'ai pas eu besoin de me casser le tronc à lire son bouquin. Primo, la Mergo, la promo, elle sait ce que c'est. Et croyez-moi, c'est pas le genre de bonne femme à chercher des poux dans le micro d'un mec qui lui mouillera la compresse sans même avoir lu son livre. Et Dozio, la Mergo, c'est comme ça qu'ils sont obstinés à vous nommer. C'est une rigolote qui a la tchatche. Si je la lance sur le cheveu qu'elle a sur la langue, elle sera inénarrable. Comme je lui faisais remarquer que dans votre livre, le personnage de Chloé qui surmonte soudain son bégaiement en s'écriant sans bafouiller les chaussettes de l'archiduc sèche.
Ah
c'est mon dentier là, c'est pas moi, c'est mon dentier.
Mais tu y allais, mais tous seul.
Sont-elles sèches, archiduc sèche?
Bien fait. Il n'en met pas une dedans.
Si je lui demandais si c'est
maintenant avec pruneau cuit et pruneau cru.
Ah, tu veux que je le dise très vite,
hein? Non.
D'accord.
Pas toi.
D'accord. Bon, je pourrais t'en dire d'autres. Bon, peut-être. Je demandais si c'était peut-être une transposition de vous-même, Isabelle, et de votre dislalie. Nagui me coupa sèchement. Maréchal, laissez ces analyses intello à Leïla Kadour-Boudali et contentez-vous du pitch. Heureusement, le pitch, du roman,
c'est simple.
Au cours du braquage d'une bijouterie, un braqueur rencontre encore plus braque que lui. Voilà.
Oui, pas hein, mal.
C'est concis, c'est,
ouais,
bien.
C'est pas mal. C'est
quant
pas
au titre, ouais. Un escargot tout chaud. Il me ramène au temps merveilleux des comptines que je chantais jadis à mes petits-enfants. C'était en mars 1942, une belle année à la Châtre.
On va pas avoir le temps.
Il court, la fureur. Et aussi, Barbie, tu dors. Jean Moulin, va trop vite. Barbie, tu dors. Jean Moulin, va trop fort. Jean Moulin, va trop fort. Jean Moulin. Voilà.
L'art de la rupture.
Là, je peux pas articuler davantage. Donc vous savez un peu mieux où vous mettez les pieds, Isabelle Mergolt, et croyez bien que j'en suis désolé.
Merci. Allez, à vous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Je n'ai eu aucun mérite à dire, et je vais le redire, à dire que j'ai lu votre livre tellement il est agréable, facile, plaisant, drôle à lire, cet escargot
tout chaud.
Ouais, absolument, cet escargot tout chaud, mais alors, l'un des personnages dans votre roman a vraiment pris une souris, l'a vraiment trempé dans... Il faut pas dire, vu la tête que tu fais. Ah, il faut pas dire.
Faut spoiler, là.
Ah, bon, ok.
Je crois que.
Faut s'arrêter avant.
Spoiler, comme on dit.
Je divulgâche. Ça vient assez tard dans le livre.
C'est ce que disent les Québécois.
Les Québécois, ouais. Divulgâcher.
Vous divulgâchez. Ouais, mais je préfère spoiler. Ouais. Non, je crois qu'il faut pas le dire effectivement, okay, parce que c'est toute la fragilité de
bon,
notre
j'ai pas dit
héros.
Lequel. J'ai pas dit lequel. J'ai pas dit qui.
Vous avez rien dit en plus. Voilà, j'ai rien dit.
Ce qu'on peut dire, c'est que
je sais pas ce qu'on peut dire maintenant. Je suis très gêné.
Le personnage principal, c'est Rose. C'est alors moi, c'est marrant. C'est un personnage de papier et pourtant je l'aime beaucoup. Voilà, vous arrivez à brosser son portrait.
Elle est ronde.
Elle est ronde.
Elle est pas très bien dans sa peau à cause de cette rondeur.
Elle mange beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle est triste, parce qu'elle est devenue transparente aux yeux de Philippe, son mari.
Oui, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Ouais. Elle mange parce que son mari ne la regarde plus, et il ne la regarde plus parce qu'elle est grosse. Alors, c'est plus... Et en fait, mais j'ai fait un personnage comme ça, qui était rond, qui était lourd, mais parce que c'est sa solitude qui la rend comme ça, quoi. Mais... elle va trouver l'amour qui va la franchir de cette lourdeur.
Mais ne spoilez pas, ne racontez pas tout.
Je raconte pas tout parce que je dis pas avec qui.
Bien.
Et donc elle va comme ça se rendre légère, parce qu'on sait bien que c'est l'amour, que c'est les sentiments qui rendent aussi léger que le voile d'une mariée, quoi. On est léger quand on est amoureux. Même quand on est amoureux de son art, quand on est inspiré, quand on a l'enthousiasme, le feu intérieur qui vous brûle. Oui, on est léger, et donc elle va s'affranchir de cette lourdeur, en fait.
Et elle travaille dans une bijouterie.
Elle, c'est même sa bijouterie.
C'est un couple.
Ça, c'est sur la jaquette.
Et on peut dire qu'en effet, il y a un braquage qui est fait par un branque. Oui, mais par un branque surtout. Oui. Et qui arrive avec déjà, la cagoule n'est pas bien en place. Ça commence mal pour lui.
Oui, il l'a mis en quatrième vitesse, donc on voit qu'un œil et qu'une commissure. Mais bon.
Une jolie commissure.
Et il a chaud.
Oui.
Et il a chaud.
Il a chaud, bah oui, parce qu'on est au mois de mai à peu près, là où il y a beaucoup de ponts, et il a chaud, et surtout, il tombe sur des déprimés. Donc, à partir du moment où il les menace en disant, voilà, la caisse où je vous bute, et ben les mecs disent, ben, butez.
Bah, évidemment.
Parce qu'ils en ont... c'est pas qu'ils ont envie de mourir, mais ils s'en foutent un peu de vivre pour la plupart. Alors ça a l'air très triste comme
non,
ça.
Non, c'est extrêmement drôle parce que au moment où justement le braqueur arrive, il y a plusieurs personnages. C'est pas Rose seule qui est prise en otage ou qui est menacée par un revolver. Donc ils sont plusieurs, chacun étant la chacune de l'autre ou chacun ayant un rapport d'affection, d'amour ou d'amitié avec l'autre. Ça peut être le voisin, ça peut être un séducteur, ça peut être quelqu'un de passage, ça peut être justement le mari.
Laisse
sa femme, voilà, ça peut être la fille qui elle aussi n'est pas
bien
à la peau.
Ils sont combien?
Ils sont six, ils sont seuls.
Mais chacun dans sa bulle. Et quand
même le chien, il a besoin d'affection.
Et personne ne joue avec lui.
C'est vrai. Enfin, en tout cas,
il y a un chien qui parle.
Il y a un chien, mais qui croit que dès qu'il y a quelqu'un de nouveau dans la boutique, croit qu'il va pouvoir jouer. Et donc,
c'est son copain.
Même si c'est une dame qui tombe dans les pommes, il va, c'est un jeu super, il se jette sur le cadavre. Donc, tout ça pour dire que au moment où il braque et au moment où il dit. L'argent ou la vie, finalement, chacun va dire eh ben tuez-moi.
Ouais.
Sauf que c'est ça qui est fort. Les cinq autres vont chaque fois réagir et c'est là où ils deviennent eux les espèces de haubans du mât de la vie de ces personnes. C'est-à-dire qu'ils les tiennent.
Beau. Vache. Oui, oui.
C'est beau. Vache.
Allez, j'ai fait de la voix, on dirait un mélange entre Verlaine et Tabarly. Magnifique.
J'ai même pas tout bien compris. En plus, mais c'est beau.
C'est que chacun des six est tenu par les cinq autres.
Oh, ah ouais.
Et retenu en tout cas la vie par les cinq autres.
Moi, elle comprend plus. Elle dit oui.
Ah ouais, Nagui.
Non. Bah, moi, si c'est pas ça, dites-le moi.
Le coup du haut banc, c'est fort. Hein, quand même.
Ah ouais. Ah là, il m'a perdu là. Non.
Moi aussi, d'ailleurs, je me suis perdu.
Oui, parce qu'en fait, ce sont pas des clients qui sont là. Parce que ce jour-là, elle aurait pas dû ouvrir la bijouterie parce qu'on est en plein pendant au mois de mai, pendant les ponts. Mais elle a quand même ouvert parce qu'elle s'ennuie tellement dans sa vie qu'elle se dit bon, je vais ouvrir. Et donc, c'est le voisin qui vient. C'est une vieille dame qui arrive. C'est celle qui entretient la tombe de sa belle-mère qui vient. C'est sa fille qui vient. Donc, ce ne sont pas des clients, ce sont les habitués qui
viennent. Oui, et qui ont un rapport avec les histoires des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a des outings qui se passent, il y a des rebondissements, il y a des révélations qui sont faites. C'est drôle, mais c'est tellement drôle. C'est un huis clos. Il y a quelques scènes, pardon, à la fin, sur le banc ou dans la rue, c'est ça.
Il y a des évocations de scènes heureuses dans le maïs, par exemple.
Mais globalement, c'est un huis clos. Ça devrait être une pièce de théâtre.
Ou un film.
Oui, bien sûr.
Oui, comme ça, ce serait pas trop cher. Parce que,
tout de suite,
non,
budget.
C'est vrai, bah le budget, ouais. Budget. Oui, par, oui, c'est un huis clos par le postulat de départ, puisque c'est un braquage. Et, mais moi, j'aime bien ça parce que, d'abord, je serais incapable de, je suis une contemplative, j'adore la mer, la montagne, tout ça, mais je serais incapable de la décrire, d'écrire dessus. Mais j'aime l'humain, j'aime les gens, je crois qu'on pourra me mettre au milieu d'une grande ville ou de grands espaces, je me retrouverais à décrire juste un petit lopin, parce que si j'ai besoin de tout ramener, j'adore les dîners à deux, à trois, je supporte pas le monde, la foule.
Ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui va au théâtre, qui fait des spectacles, qui
oui,
se met sur scène.
Oui, mais je ne les vois pas.
Il y a une distance, vous sentez,
vous
sentez, la sécurité.
Vous sentez l'électricité quand même, de, et vous avez peut-être le trac d'ailleurs, je ne sais pas.
Oui, j'ai le trac, mais il y a une espèce de distance. Ouais. Quoi. C'est, non, c'est pas... Par contre, après, quand je dois rencontrer les gens, qu'il y a beaucoup de monde, oui, je suis pas bien. Oui, je me suis beaucoup détruite à cause de ça. Il me fallait boire un coup pour pouvoir. Je ne peux pas encore maintenant dans un restaurant, si les toilettes sont au fond, je ne peux pas traverser la salle sans renverser au moins trois chaises, tellement je suis mal à l'aise, quoi. Je veux dire, sauf quand j'ai bu un coup, et là, rien. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à boire, enfin quoi que...
Bon, il y en a qui ne gênent pas. Pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Albert, il y a de vous dans ces personnages, est-ce qu'il y a de vous dans tous les personnages, ou est-ce que vous reflétez dans l'une?
Mais par la force des choses, il y a de nous dans tout ce que l'on fait, que l'on soit auteur, musicien, peintre, il y a ce qu'on appelle notre sensibilité, notre essence même qui fait qu'on est ce qu'on est. Bien sûr qu'il y a tout, mais le personnage, effectivement, qui pourrait me ressembler le plus, c'est Chloé qui bégaye.
Qui est la fille de Rose.
Qui ne peut pas s'exprimer, qui est complexée, qui est la fille de Rose, notre héroïne. Enfin, la mienne, surtout. Enfin, la vôtre, si vous voulez la carte. Et donc, effectivement, qui parle d'orthophoniste et tout, et qui a eu des problèmes à l'école, au point qu'elle n'a pas été à l'école, justement, parce que ça pose problème. Oui, c'est moi, ça aussi, parce que moi, dans mon enfance,
oui, j'avais... Pardon, qui a même des problèmes dans son propre couple, à faire comprendre si oui ou non elle a du plaisir.
Oui.
Qui a même, la scène est formidablement drôle, d'ailleurs, et qui a même des problèmes, évidemment, avec ses parents, qui a le sentiment d'avoir été...
Trop surcouvé, finalement. Parce que ses parents, et c'est vrai...
Et donc mal aimé.
Oui. Oui, quand vous êtes aimé pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que comme le couple ne pouvait plus se donner de l'amour, ils se sont focalisés sur l'enfant, donc elle a été aimée pour les mauvaises raisons. C'est pour ne pas voir leur problème à eux de couple qu'ils ont tout déversé sur elle. Ils en ont trop fait, en la surcouvant, en l'aimant trop, et ben ils en ont fait un petit être qui ne peut plus parler, qui bégaye, ce qui est pas mon cas, hein, j'avais un défaut de prononciation qui m'empêchait de parler parce que...
Mais ça, c'était avant, ça.
Oui, non, mais vous rigolez.
Non, je rigole pas,
je ne pouvais pas dire papa, je disais chacha. C'était surtout.
Elle me l'avait déjà expliqué, tout ça. Ouais.
Donc, j'ai beaucoup progressé.
Bah oui, vous
non, c'est vrai. Évidemment.
C'est une drôle rime. Alors,
c'est ça qui est dingue.
C'est-à-dire, c'est une lecture, allez, en 1h30, 2h, on peut lire le livre. Et on passe un super moment, un meilleur moment que si on avait regardé, parce que c'est la durée d'un film, à peu près, on pourrait se dire ça, en termes de temps de lecture. C'est souriant, à la fois, c'est quand même profond, parce que vous abordez les complexités de tous ces personnages qui sont dans une forme de souffrance, quand même, de solitude. Oui. Absolue, mais qu'est-ce que c'est drôle, et ça me donne envie de le voir sur scène, ça me donne envie de le voir.
J'ai pas arrêté de penser, ouais. Parce qu'il y a des pures vannes, c'est très rythmé.
Je suis très admiratif du travail que vous avez fait là en termes d'écriture.
C'est bien écrit, c'est drôle, c'est intelligent et c'est humain. Ouais. Albert, tu l'as lu aussi ?
Oui, puis c'est très émouvant aussi. Il faut voir, hein, parce que les personnages sont drôles, il y a des retournements de situation, et surtout ils ont chacun un
poids dans la vie, ou un boulet qui fait qu'ils
ne sont
pas...
Ils sont tous paradoxaux, ouais. Dont le supposé méchant, puisque le braqueur peut-être tombe sur plus braque que lui, et donc ça à la fois un effet tragicomique, voilà, c'est ça, on est dans la tragicomédie.
C'est chez Grasset, ça s'appelle Un escargot tout chaud, vous l'avez compris, on a aimé, et vous ne serez pas déçus, en tout cas, vous le lirez avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a des valeurs d'ailleurs, entre guillemets, un message que vous voulez faire passer avec ce roman?
Donnez-moi de l'argent.
Ah, c'est drôle. Non, oui. Qu'il faut pas laisser s'envenimer les situations, quelles qu'elles soient, avec un ami, avec son enfant, avec son mari, en couple. il faut communiquer. Ça, je crois énormément en ça. Il faut communiquer.
Dire les choses.
Oui, parler, quitte à s'engueuler, mais parler, que ça sorte. Et rien n'est foutu tant qu'on peut pas communiquer, tant qu'on peut parler.
À propos de communication, excusez-moi, comme Joséphine va prendre la parole, elle est en petit chaperon rouge, et il est beaucoup question du petit chaperon rouge à un moment dans le récit, de manière surprenante.
Bah, c'est-à-dire, donc, on est dans l'univers contine, conte.
Il y a le rapport, non, mais comme un escargot toujours, c'est-à-dire que le rapport à l'enfance, et à ce que l'on comprend, et la manière dont les parents racontent des histoires. Oui, parce que c'est vrai que quand même, les trois quarts des histoires ou des frères Grimm ou de Perrault, c'est toujours et le loup l'a mangé, et le petit enfant est perdu, et sa maman est morte. Allez, bonne nuit, dors bien, à demain. Et là, en l'occurrence, c'est une maman qui protège tellement son enfant
qu'elle change les comptes.
Bah, qu'elle change les comptes pour les arranger, ce qui peut aussi ne pas aider.
Oui, pour pas qu'elle soit traumatisée, c'est pour ça. Pas qu'elle ait peur. Or, le traumatisme pour un enfant, c'est justement de ne pas avoir peur. Il faut pas retirer la peur aux enfants, c'est ça qui les.
Oh, bah, qui même les attire par moments, parce que. Il joue à se faire
bien
peur.
Bien sûr.
Le cache-cache, le premier jeu d'enfant, le cache-cache, on a peur d'être trouvé, on a peur d'être surpris, on a peur de perdre.
Ça, c'est toi, ça.
Personne ne m'a retrouvé, oui, j'ai très très peur. L'escargot tout chaud, c'est chez Grasset, signé Isabelle Mergault. Et vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit qu'Isabelle venait.
Et oui, quand je pense à vous, Isabelle, je ris tout de suite parce que je pense à vos tweets hilarants. Je vous suis sur ce fameux réseau social. Et vraiment, je me bidonne à chaque fois. Déjà, les quelques lignes que vous avez choisies pour vous définir, pour vous décrire sur Twitter, c'est...
Le profil.
Voilà, artiste dramatique, trois petits points, a triomphé dans Phèdre et Andromaque. Alors je trouve que, voilà, il y a toujours... Vous prenez tout à contre-pied. Alors je prends d'autres exemples de tweets que vous avez pu publier. Petit exemple, quand on pense qu'il suffit de changer quatre lettres à Marc, et ça fait beat. C'est fou, non? Voilà, ça m'a fait la journée. Moi, ça m'a fait la journée, Isabelle.
Alors, pas sûr que mon image soit grandie.
Non, mais il y a aussi le hashtag écrit une note dans le style de Pénélope, faisant référence aux notes de lecture de la femme de François Fillon. Donc, la nausée, c'est un mec, il est barbouillé. J'ai trouvé ça très, très bon. 20 000 lieues sous les mers, le mec, il est décevant, il ramène même pas un poisson. Ben voilà, moi, vous me faites vraiment la journée. Alors, vous faites aussi des analyses un peu politiques. Je trouve que Trump, il exagère un peu. Besoin d'autres analyses politiques? N'hésitez pas, je ne dors pas tout de suite. Je me demandais comment vous appréhendez Twitter. C'est un outil qui peut avoir beaucoup de vertus et qui peut et voilà qui est un peu compliqué à gérer. Oui. Moi, je trouve que ça. On reste en contact avec vous aussi, avec Twitter et avec votre humour. C'est ce que moi j'aime. C'est pour ça que je vais regarder votre fil de temps en temps pour voir un peu ce que vous nous avez pondu.
Elle a 54 500 abonnés.
Ben ouais, mais je comprends parce qu'il y en aura beaucoup d'autres, j'en suis sûre. Quel rapport vous entretenez justement avec Twitter? Est-ce que c'est une façon de continuer à être là sur le réseau, entretenir des liens avec les gens, vos lecteurs, les personnes qui vous aiment aussi au théâtre et au cinéma?
Alors moi, je suis pas très réseau social comme ça. Mm-hmm. C'est au début, on m'a dit, il faut que tu prennes Twitter. Quelqu'un va gérer ton compte pour toi. Comme ça, tu peux dire ton actualité.
C'est ce qui est pire, ça.
Alors je dis, bon, d'accord, je sais pas ce que c'était. Moi, je dis, ok, c'est ça que je vais faire. Et puis finalement, j'ai regardé un petit peu. J'ai trouvé que c'était rigolo. Et puis j'ai dit, personne va gérer mon compte. C'est moi qui vais dire.
Oui.
Mais je m'en sers pas beaucoup pour faire ma promo.
Alors, plusieurs fois par jour, vous faites plusieurs posts par jour?
Non, c'est par crise.
Ouais, c'est ça.
Oui, il y a des salves.
Il y a des salves. Comme les cigarettes, c'est par crise. Je peux arrêter. Et puis après, pendant toute une journée, je peux, voilà. Et donc, et puis de temps en temps, on est inspiré. Et puis, alors, j'ai vite.
Et des fois, on fait des gaffes. Par exemple, là, je suis tombé sur un où vous avez pris en photo votre livre, une pile de livres. Et vous dites, c'est drôle. Et vous dites, en route, alors je lis ce qui est écrit, en route vers de nulles aventures. Et en fait, le U devait être un V pour dire de nouvelles aventures.
C'était la première fois, mais j'étais très émue, c'était la première fois que j'étais chez Grasset, je vois cette pile de livres. C'est tellement surréaliste de voir du moi partout, qu'en fait, ça annule le moi que vous êtes, et vous êtes juste spectateur, et vous vous dites, putain, on a écrit des trucs. Comme ça, alors que et donc, je devais être très émue, en fait. Et donc, j'ai fait ça, et j'ai écrit en route. Ouais, vers de nulles aventures.
Vous êtes rapidement corrigé, mais c'est vrai que il y a quand même, vous l'avez laissé parce que il y a toujours possibilité de l'effacer, de le corriger, de le republier pour pas que ça traîne non plus. Parce que là,
je l'ai corrigé et puis
ça devient une vanne maintenant.
Bah oui, j'aime pas effacer ce que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait, j'ai fait une boulette.
En tout cas, moi j'adore vous suivre. J'ai autant de plaisir qu'à lire un escargot tout chaud. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le.
Il y a une patte, Mergault.
Et puis Twitter, ça vous correspond bien aussi parce que c'est court, c'est, court. C'est ciselé, ouais. C'est efficace, martelé et hop, on n'en parle plus.
Non mais c'est vachement, puis c'est drôle Twitter. Il y a des
ça peut être dangereux aussi parce que c'est l'anonymat aussi, il y a un petit côté corbeau délation où les gens s'amusent à balancer des trucs
derrière les trolls, des humoristes très très doués quoi.
Et Bernard Pivot aussi qui a des fulgurances sur Twitter qui sont remarquables.
Alors je poursuis quand je pense
Non mais j'ai l'impression, vous savez, dans les petits desserts chinois là, il y a des quand vous ouvrez, il y a des mantras là, il y a
les
des
cookies
petits,
fortune, les fortune cookies.
Ça fait un peu ça pivot quand même.
Message de sagesse populaire.
C'est ou alors ce qui a marqué sur les assiettes, vous savez, des petites phrases un peu. Oui, je suis pas à genoux.
D'accord. Alors je poursuis quand je pense à vous. Dit. Quand je pense à vous, Isabelle Mergon, on est en direct.
On est en direct. Elle faisait une faut couper.
Oui, pas mal.
C'est du direct. C'est la petite lumière rouge là pour le coup.
Elle ne peut pas l'effacer.
Elle a trop l'habitude des grosses têtes peut y avoir un montage, mais là bah non, il y a pas de montage.
11h25 quasiment sur France Inter. Moi quand je pense à vous, je pense à votre sincérité, Isabelle Mergon. On vient de voir.
Voilà.
Écoutez-vous répondant à une question de Laurent Ruquier, votre complice de toujours.
Isabelle, elle a eu un César pour son film et je vous trouve très beau, elle n'y est pas allée à la cérémonie. Vous regrettez aujourd'hui Isabelle Mergot ?
Oui, parce que c'était un excès de prétention finalement que d'être dans... de ne pas suivre les codes. Voilà.
Refuser un César, un excès de prétention ou peut-être la sensation de ne pas en être, de ne pas appartenir à ce sérail,
qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire appartenir, pas appartenir et tout, c'est non.
Alors pourquoi ne pas y être allé ?
En fait, c'est effectivement l'humilité, peut-être un excès de prétention, chacun sait ça. Mais
ça c'est un tweet de Bernard Pivot peut-être.
Un mantra. Mais non, j'ai très peur de mes réactions et je me suis dit mais je vais être foutue de pleurer, moi. Si ça se trouve.
Tout le monde le fait,
95%. Un problème de pleurer?
Mais personne, non, je peux pas, non, je peux pas aller là-dedans.
Vous voulez pas vous donner à voir comme ça?
C'est qu'un César, c'est que le cinéma, ça va, la vie, fait une pirouette et on s'en va.
Et pour Nagui, pour le service public, vous pourriez chialer un peu là, maintenant?
Bah là, elle est au bord. mais c'est pas mal de pleurer.
C'est une émotion,
non,
en fait, peu importe. On dit pas que c'est l'événement le plus important de la journée ou de la vie, mais.
Il y a de la noblesse dans la larme, moi je trouve, et je veux pas me... Je me suis dit, je suis foutue soit d'envoyer péter tout le monde, dire ouais, merci tout le monde, salut, soit de me mettre à pleurer. Je me méfie de moi-même, donc je préfère rester à la maison à faire des mots fléchés. Au moins là, je...
Joséphine, dois-tu pleurer?
Ah mais moi je pleure toute l'année déjà, donc c'est sûr que oui. Mais je trouve que pour moi, les Césars, ça me fait tout de suite penser à des gens qui pleurent. Donc pour moi, ça m'aurait absolument pas ni surprise, ni j'aurais même pas interprété ça comme quelque chose.
Non mais moi c'est pas rien, un côté touchant. Il y a des gens qui pleurent sur scène et qui me font pleurer quand je suis devant la télé aussi.
C'est-à-dire que ça, il y a la façon de pleurer aussi, tout le monde.
La sincérité aussi.
Nagui, vous pleurez pour un rien aussi.
Quand je te vois.
De joie, mais je parlais de chagrin.
C'est ça. Voici, je rappelle le livre, ça s'appelle Un escargot tout chaud et c'est de nouvelles aventures. Et pas des aventures nulles. Pendant que je suis allé voir ce que l'un des tweets qu'a envoyé Pivot récemment en disant par exemple et alors, et là c'est la réponse la plus brève, la plus commode et la plus arrogante à une question qui fâche.
La question en référence à François Fillon.
Ouais, mais c'est pas. Il a pas tort. Mais il a pas tort.
Ah, j'ai pas dit qu'il avait tort.
Ok.
Parce qu'on a raison que c'est intéressant non plus.
Vous voulez dire que c'est pas du La Rochefoucauld, c'est ça?
Je ne dis rien du tout.
Elle a peur maintenant, elle ne peut rien dire.
J'aime bien Pivot. J'aime bien
ça. Mais nous l'aimons tous.
Voici l'humeur de Joséphine Drey.
Oui.
Bonsoir. Bonjour. Attendez, il est quelle heure là? Excusez-moi.
11h28.
Non, je suis désolée, j'ai du mal à émerger parce que je sors tout juste d'un sommeil catatonique de 9 mois. En fait, ouais. Vous vous demandiez pourquoi j'étais plus là depuis la rentrée?
Non.
D'accord. Bah voilà, ça fait Salaud. Plaisir.
Quel et bah, je...
bah oui, mais alors d'après vous, j'étais où selon vous?
S'en fout.
Et bien bonjour à tous. Alors je vais y aller.
J'étais où? Sur scène, en
mais
tournage.
Mais pas du tout, Nagui. Excusez-moi, je vous explique. J'étais ici même dans les sous-sols. Mais oui, France Inter m'a cryogénisé à la fin de la saison dernière. Oui, ils m'ont congelé comme une raie surgelée Picard à peu près. Oh. Et on vient de me réveiller il y a juste 15 minutes. En fait, ils font ça avec plein d'animateurs. Ils les entreposent dans les sous-sols pour les ressortir en cas d'urgence. C'est vrai, hein, certains le vivent plus ou moins bien. Ils ont essayé de congeler Jacques Vendroux. Il hurlait « Laissez-moi, je connais bien Michel Platini. Je dois commenter la finale de la Coupe des Villes de Foire samedi en 8 avec Raymond Coppa. » Bon voilà, c'était... Mais c'est très sérieux, cette histoire.
Le pauvre est mort, hein, Raymond, Raymond Coppa.
Mais ça, il le sait pas non plus parce qu'il est congelé en bas. D'accord, aussi. Okay, donc il peut pas, on n'est pas au courant de tout. C'est très sérieux. Hein. Mon retour, c'est un ordre qui vient de tout là-haut. C'est Mathieu Gallet qui a dit. Alison Wheeler est partie sur un film. Faut arrêter de prendre des chroniqueurs qui plaisent. On a quoi en stock? Joséphine Dray, chef. Bon, là au moins pas de risque. Mais c'est tout. On n'a pas Stéphane Paoli. Non, il est périmé, chef. Très bien. Réactivez la Dray. Vous êtes sûr, chef? Parce que là, ça va être le retour des blagues sur le surpoids, les problèmes de colon et les micro-pénis. Je sais, mais on n'a pas le choix. C'est notre dernier espoir. Ok, chef, mais elle ne sait rien de ce qu'il s'est passé dans le monde depuis 9 mois. Ça change pas grand-chose, elle savait pas avant non plus. Laissez-moi au moins lui introduire Patrick Cohen.
Oh non,
on n'a pas le temps pour vos délires salaces, Pierrot. Non, la puce Patrick Cohen, celle qui permet de connecter avec le savoir du monde. Je m'en fous, faites vite. L'arnaque, activez le processus de retour à la vie. Activez l'injection des pompes à Nutella. Vérifiez le niveau de graveleux. 4, 3, 2, 1, top à Jojo. Micro-pénis. Ah bah ça, je vous le dis, vous allez en bouffer pendant 3 semaines. Hein. C'est que le début. Bouffer, bon. Et voilà.
Merci,
l'histoire. Bon, bah oui, je vous avais prévenu en même temps. Attendez, j'ai pas pissé depuis l'été dernier, donc on va faire la chronique rapidos, du coup. Par contre, j'ai rien bouffé depuis 9 mois et je réalise que j'ai même pas maigri les coudes. Ça, c'est pas très cool. Pardon. Je dégèle encore de la mâchoire, j'ai mon élocution qui, ça y est, c'est ma muqueuse maculée de roumousse. C'est bon, ma diction est en place. Allez, prête à rattraper le temps perdu. En tout cas, ça aurait rien à changer ici. Hein. Leïla est toujours magnifique. Le public est toujours vivant déjà. Richard est toujours habillé, Dieu merci. Non, tout est pareil. À part la statue équestre de Patrick Cohen à l'entrée, pourquoi pas. Non, ce qui me gêne, c'est juste le côté too much. Le cheval est moins bien membré que Patrick, donc bon. Mais oui, j'ai changé. Je ne parle pas que de micro-pénis, vous voyez. Bon, je suis là pour commenter l'actu, oui ou bien. Alors, je sens que Patrick Cohen commence à s'activer en moi. C'est la puce du savoir de Patrick Cohen, évidemment. Alors, comment se passe la campagne de Hollande? Parce que, quoi? C'est pas lui? Taubira, alors? Non? Valls? Alors, bon, c'est pas, mais quoi? Montebourg, c'est quoi? Quoi? Amon? C'est... Ah bon? Amon? 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 Ah bon?
Oui, merci.
Ah, pardon, je bug, je suis désolée. C'est pas vrai, mais laissez-moi deviner. Hollande a été kidnappée par Valérie Trierweiler, comme dans Misery. Et toutes les 5 minutes, elle lui répète « Mon petit Françounet, merci pour ce moment. Maintenant, tu vas écrire un livre pour dire que je suis fantastique, que Gaillet est une traînée et tu l'appelleras « Un président ne devrait pas baiser ça. » Voilà, c'est ça l'histoire. Et puis les socialistes se sont dit « Tiens, si on prenait un mec qui ressemble à notre électorat, qui a une tête de prof de chimie sympa dans la salle, mais viens Benoît, viens !» Voilà. Et puis chez les Républicains, c'est qui chez les Républicains le candidat? Attendez, Fillon. Non, pas candidat aux élections cantonales de la Sarthe. À la présidence de la République française. C'est qui? C'est lui, mais c'est une blague! Elle est où la caméra? Il est où Marcel Béliveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Sarko est en prison? Aussi. C'est quoi? Sarko est en prison, Juppé est mort de rire au sens propre? Attendez, c'est pas possible, on dort 9 mois dans un congèle, on revient et c'est le foutoir! C'est pas avec Véronique Courgeot que ce serait arrivé, ça!
Oh. Non.
Bon, et Le Pen? Toujours candidate? Toujours d'extrême droite? Toujours des affaires au cul? Ah bah voilà, ça c'est rassurant de voir qu'il y a des choses qui changent pas depuis les années 30 au moins. Moi j'étais quand même mieux dans ma capsule, hein. J'étais en train de rêver à l'égalité homme-femme, à la fin des violences policières. Je suppose que ça non plus ça n'a pas changé depuis la fin des années 30. Ah, c'est devenu une mode en mon absence, l'introduction des matraques télescopiques dans l'anus des suspects. Je demande juste parce que je suis pas très fan ça, hein. Hashtag not in my anus. Oui, vous voyez, je ne parle pas que de micro-pénis les gars. C'est déprimant, je suis désolée, heureusement je vais au concert de George Michael demain donc...
Non.
Quoi, il est mort? Oh non! Wake me up, après ma cryo, je reviens, c'est le monde qui part à volo. Ramenez-moi faire dodo au frigo les gars.
Merci Joséphine Dray.
La bande originale, la vie. Sur France Inter.
Très bien. Prof de chimie, je ne verrai plus les choses d'une autre manière.
Prof de chimie sympa.
C'est vrai. Tête de prof de chimie, je ne pensais pas que ça pouvait être un qualificatif. Isabelle Mergaud est notre invitée, un escargot tout chaud. C'est son premier et son nouveau roman chez Grasset. Est-ce qu'il se situe d'ailleurs dans le temps?
Non, c'est fait exprès, un petit peu.
C'est après Serge Lama quand même. Parce que voilà, il y a un répertoire musical qui peut nous donner une indication.
Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle.
Mais ça, c'est intemporel, ça. On sait pas, on peut l'écouter aujourd'hui.
Ce passage dans le roman, il est génial. Le choix de cette chanson-là, dans les circonstances qu'on va pas révéler, c'est absolument génial.
Il y a la Marseillaise aussi. Il y a la chanson de, il y a Serge Lama, il y a la Marseillaise.
Non, si, on peut le dire. On peut le dire. Parce que c'est Chloé qui.
Alors, qui bégaye. Non, non, mais oui, j'ai
peur. C'est Chloé.
J'ai peur, parce que comme il n'y a que 170 pages, si en effet, je spoilis, je serais.
Non, on dit spoil,
c'est Chloé qui bégaye et qui, pour pouvoir s'exprimer, est obligée de chanter. Parce que c'est vrai que souvent,
elle ne bégaye pas quand elle chante.
Non, mais souvent, les gens qui bégayent, quand ils sont sur scène ou quand ils chantent, ils ne bégayent plus.
Et donc, elle utilise la chanson de Serge Lama.
Oui, qui est mal, mal à propos.
C'est ça.
Et vous, donc c'est intemporel. Vous vouliez que ce soit justement situé dans le temps, ni géographiquement aussi.
Oui, c'est pas un roman réaliste, quoi. J'ai voulu. C'est les sentiments, moi, qui m'intéressent. Donc, oui, on voit bien que ça se passe pas dans une très grosse ville. On voit bien qu'on n'est pas à la capitale. On voit bien qu'on n'est pas non plus dans la campagne perdue. C'est une espèce de petite ville.
Avec les voisins, où tout le monde se connaît.
Voilà.
Un peu, ouais.
On voit bien qu'on est au 21e, au fin 20e siècle, parce qu'il y a une histoire de portable, il y a les petites femmes. Mais voilà, on ne sait pas trop. Moi, j'aime bien ça, ne pas trop savoir où ça se situe.
Et alors, est-ce que vous vous êtes dit, en l'écrivant, vous êtes parti dans l'idée d'écrire un roman, vous êtes parti dans l'idée d'écrire une pièce de théâtre?
Ah non, d'un roman.
C'était clairement un roman.
Oui.
Et pourquoi pas une pièce de théâtre? Ça pourrait maintenant être adapté, en tout cas.
Ça pourrait être adapté, pas par moi, parce que j'aime pas faire des produits dérivés. Pour moi, quand c'est donné, quoi. On voulait que je fasse la suite de Je vous trouve très beau, on voulait même que je fasse le remake, les Américains et tout. Mais j'ai refusé parce que la chose est faite, quoi. C'est fait, on n'est pas là pour faire des produits dérivés, en tout cas moi. Et donc, c'est quoi la question? Donc, je n'en ferai pas une pièce de théâtre, moi personnellement. Et non, j'ai tout de suite voulu en faire un roman.
Et Laurent Ruquier?
Je sais pas ce qu'il en pense non plus.
Ah, il vous a pas encore invité pour faire la promotion du livre?
Elle s'y va ce soir.
Ok. Quel suspense.
Et là, vous avez l'air d'avoir, oui.
Non, vous y êtes ce soir. C'est à l'enregistrement de l'émission télé qui passera samedi soir.
Oui.
Ouais. C'est ça.
Et vous avez un peu peur, c'est ça? Même face à Laurent Ruquier, qui est pourtant un complice de toujours.
C'est un pote, ouais.
Mais non, parce que vous avez fait un signe d'appréhension.
Laurent est assez intègre. Hein, vous pouvez être ami.
On peut parler du assez que vous avez, que vous venez de dire.
C'est déjà rare dans ce milieu.
Ah oui, c'est horrible. Pourquoi j'ai dit
assez
ça?
Intègre. Assez intègre. Ouais, c'est qu'il c'est peut pas mal, l'être. Si, il l'est.
Non, il.
Plutôt
non,
intègre.
Mais quand. Reconnaissez que lorsque vous avez une amitié ou un penchant pour quelqu'un, votre intégrité en prend juste un tout petit coup. C'est pour ça que je dis assez intègre. C'est que je crois qu'il est. Il m'aime beaucoup.
Mais l'intégrité de Laurent sera de dire j'accueille Isabelle Margot, que j'aime, qui est une copine.
Et de dire. Oui, il est intègre. Oui, je ne sais pas pourquoi le AC, c'était pour, en fait, pour l'amitié que parfois, qu'on est comme tout à chacun. Vous ne voulez pas me couper? J'arrive
non,
pas
non.
à finir ma phrase.
En fait, il pourra
c'est
sans doute.
Isabelle,
il pourra sans doute vous dire peut-être qu'il n'a pas forcément tout aimé dans votre roman. C'est ça que vous attendez aussi
pas,
éventuellement de lui.
Il essaiera d'être objectif.
Non, mais heureusement, il y aura Yann Moix qui est tellement sympa.
C'est impossible. Non, mais vous y allez en toute confiance, évidemment, et vous avez raison. Et
non, elle ne va pas du tout. Regarde là.
Je vois pas comment on peut ne pas aimer ce roman.
C'est pas la question, mais comme je pense que vous appréhendez de même d'être face au public, au César, j'imagine que dans une émission où vous venez porter quelque chose que vous avez produit vous-même, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, nécessairement. Vous avez un peu peur, vous avez peur de renvoyer un peu Yann Moix dans ses 22?
J'ai toujours peur, de toute façon. Alors voilà, moi là, quand je me suis assise et que tout de suite j'ai entendu qu'on a bien aimé, ah bah là, ça va mieux. Là. Mais je suis toujours sur le... Oui,
je suis pas sûr que ce soit le plus méchant des deux, à propos de cette émission. Nous allons évoquer quelques années en musique de votre carrière, Isabelle Mergaud, notamment en 1976. Vous écoutiez...
Le mystère de ce prêtre... Et la pitié à la fenêtre. Et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître.
Vous êtes anarchiste?
Non. Non, je crois pas.
C'était pour le côté déconne de la chanson.
Non, non, je venais de passer le bac, je voulais gagner ma vie, je voulais être libre, je voulais dépendre de personne. Voilà, et j'écoutais en boucle ni Dieu ni maître.
Léo Ferré. Et dans ces années, fin des années 70, vous consultez un orthophoniste. Et il vous donne un conseil, mais un conseil de dingue.
Incroyable, parce qu'en plus, c'était pas un ami de la famille, parce que mes parents étaient médecins, on aurait pu croire que ça l'était. Mais je faisais architecture, et en même temps, je prenais des cours de théâtre. Et il me dit, et donc je vais le voir pour le théâtre, parce que je me dis, quand même, si un jour je joue Phèdre ou Andromaque...
Les cours de théâtre, c'était justement pour la diction. C'était quelqu'un qui vous avait dit, ça serait bien que tu fasses des cours de théâtre.
Pour la déconne, parce que quand on a 20 ans, on sait pas quoi faire, on se dit, oh bah tiens, je vais aller là-bas.
Vous avez pu faire de la musique?
Oui, mais c'était...
Ah non, c'est vrai que je vous ai entendu chanter.
Et donc, il me dit... alors, attendez, est-ce que vous êtes sûre de vouloir être architecte? Mais peut-être que vous serez comédienne. Ne le corrigeons pas tout de suite, parce que je peux vous assurer que en deux séances, c'est corrigé. Mmh. Alors, j'ai dit, bon, merci. Il ne m'a pas fait payer, tiens, il ne manquerait plus que ça. Et donc, et puis, en fait, ça m'a énormément aidée pour... pour tout de suite travailler, quoi, pour avoir des petits rôles.
Parce que pour lui, c'était votre caractère, votre personnage. Ben,
Je pense qu'il se disait, celle-là, elle sera plus comédienne qu'architecte.
En 1980, vous écoutiez Hugo Frey.
Toi qui ce soir a perdu, tchou, tchou, tchou. Toi qui ce soir est battu, tchou, tchou, tchou. Je veux croire mon frère, en levant ce verre, je veux croire encore à ton espoir.
Hugo Frey fait partie de la bande originale de vos feux de bois, de vos soirées entre potes, de votre enfance?
Non, je la trouve très entraînante. Je la trouve très... D'abord, j'adore cet homme. Et
Il y a il y a Santiano aussi qui est très entraînant.
C'est le côté Auban, ça.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est haut, absolument.
Non, il y a le côté...
copain.
Copain. C'était la période où j'en avais pas mal. Où je m'amusais et j'étais complètement inconsciente. J'étais persuadée d'être immortelle, que jamais, que c'était bon pour les autres, que jamais je ne vieillirais, que tout m'appartenait, que tout...
Maintenant, vous avez compris qu'on va tous crever.
Eh ben oui.
Merci, Albert. Dans ces années-là...
Peut-être aujourd'hui, d'ailleurs.
Les films se succèdent à grand rythme, parce qu'il y avait On n'est pas des anges, elles non plus, Les hommes préfèrent les grosses, Pour s'embriquer, t'as plus rien, Ça va faire mal, enfin, c'était série. Il y a eu Prof aussi, de Patrick Schulman, et en plus que des cartons. Très populaire. C'est-à-dire que j'imagine que le regard des gens dans la rue, dans votre quartier, de la famille, des amis, a dû changer en très peu de temps, quand même.
Non, vous n'avez pas vu les films.
Bah si.
Sauf dans Prof, mais sinon j'ai des toutes petites apparitions.
Non, mais je parlais du succès des films. Mais Prof.
On ne me reconnaissait pas, non.
Dans Prof, oui.
On m'a pas reconnu dans la rue. C'est après, avec les grosses têtes. C'est les grosses têtes qui m'ont mis tout de suite en vedette.
D'accord.
Mais les rôles que je faisais, non, personne me reconnaissait. J'étais, bah d'ailleurs, j'étais toujours en petite tenue. Donc dans la rue, généralement, je marche habillée. Donc vraiment, on pouvait pas me reconnaître. Mais j'étais secrétaire à l'époque pour gagner ma vie. Et je faisais ça en même temps. Et je gagnais beaucoup plus en étant en petite tenue et en passant devant la caméra qu'en tapant à la machine. Donc j'ai arrêté de taper à la machine, évidemment, je suis pas maso.
Ça a commencé quand et comment, les grosses têtes? C'est Bouvard qui...
Alors, ça a commencé en...
Alors comment? Alors peu importe l'année, mais comment
Eh ben je sais pas. Un jour, l'assistante de Philippe Bouvard m'appelle en me disant... Je devais avoir une trentaine d'années, en me disant... Cette phrase incroyable. Il y a l'appel de la part de Philippe Bouvard qui aimerait vous essayer.
C'est ce qu'il se dit, c'est vrai.
Mais je vous assure, c'est ça.
Texto.
Ah, c'est joli. Ben, moi, je n'étais pas farouche. Je me suis dit, si ça peut me rendre célèbre, allons-y. Et donc, j'y suis allée. Il y avait Jean-Yann,
wow.
Kersauzon, Martin, puis je ne sais plus trop qui. Alors, j'étais un petit peu dans mes petits souliers et je les ai tous, je sais pas. Moi, de toute façon, ça passe ou ça casse.
Il y avait du tour peut-être à l'époque, non?
Pas la première fois, je crois pas. Mais paf, je les ai explosés et puis après, je suis devenue... parce que c'est bien tombé, j'étais bien disposée, mais J'aurais pu faire une mauvaise émission et voilà.
Et passer à côté de...
Enfin, je me suis habillée avec une jupe au ras du bonheur, un décolleté jusque-là. Je me suis... Enfin, j'y suis allée, quoi, quand même.
La jupe au ras du bonheur. Quoi. Vous écoutiez en 1991...
Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite routine au teint de l'air. Que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant en attendant que je m'y fasse.
Charles Aznavour.
Il nous manque
la salle et la terrasse et on l'embrasse. Là, vous êtes donc en entendant cette musique. Est-ce que vous êtes vous voyez, je sais pas, chez vous dans un appartement?
Non, c'est-à-dire que là, j'ai décidé de ne plus être comédienne.
Ouais.
Que plus jamais. Je serai devant une caméra ou derrière, devant.
Ouais, parce que derrière, c'est.
Et mais je ne sais pas quoi faire. Et cette chanson, j'entends cette chanson que, de cet homme là, d'Aznavour, qui raconte l'histoire de cet homme qui fait la salle, la terrasse, qui est un con, qui ira jamais plus loin. Il le dit dans sa chanson, je suis un con, et je grossis, et je prends du ventre, j'avais l'ambition de, et je ne le ferai jamais. Et là, et je me dis, bon, ben, je vais redevenir secrétaire, j'étais perdue. Je savais ce que je ne voulais pas.
Pardon, c'était une espèce de dépression ?
Du tout. Je me rappelle exactement le jour où j'ai dit j'arrête d'être comédienne. C'était dans le regard d'un metteur en scène qui m'avait reçue et j'ai vu dans son regard que j'avais pris un sacré coup de vieux à 30 ans. On n'est pas vieux à 30 ans. Ça y est, je le sais maintenant. Et donc je suis sortie, il faisait beau et j'ai jeté mon book. Mes photos à la poubelle et j'ai dit plus jamais je serai dans le regard et dans le désir de quelqu'un. Je fumais 2 paquets par jour à l'époque et je me souviens c'était à côté du boulevard Malesherbes et il faisait beau et j'étais alors oui j'étais légère, affranchie de toute contrainte. Je savais que plus jamais je serai dans le désir de quelqu'un, je ne dépendrai du désir de quelqu'un. Et j'ai arrêté immédiatement, sans le vouloir. C'était comme ça. J'ai arrêté de fumer et j'étais légère et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà. C'était après. C'était un peu plus compliqué. Mais là, c'est, je crois, le plus grand moment de bonheur de ma vie. J'étais légère. Je volais.
Et vous avez replongé dans l'écriture. Ça a été le premier réflexe.
J'ai d'abord plongé un peu dans la déprime.
Ah bah, je vous demandais si c'était une dépression, vous dites non.
Mais après.
C'est là que vous avez commencé l'alcool, après la cigarette.
Oh bon non, l'alcool, j'avais commencé depuis longtemps. Au baccalauréat, je l'ai passé bourré.
Un conseil à tous les jeunes qui nous écoutent, hein, on peut avoir des diplômes et être bourré tout le temps. regardez la vie.
Non, vous avez un peu raison, oui, c'est vrai. J'étais emporté, je ne savais pas quoi faire. Et puis, oui, effectivement, je me suis mis à l'écriture, et puis ça...
Et de l'importance, parce qu'on le voit dans votre roman, quand on n'est pas bien dans sa peau, la vie personnelle, alors je ne vous demande pas de faire des révélations sur votre intimité. Non.
Il aimerait bien quand même. Hein,
non, mais elle a forcément un lien. Il y a une résonance entre le fait d'être bien dans sa peau à la maison, ou dans sa vie, ou dans ses amours, et être bien dans son boulot. On a beau cloisonner, ça transpire entre les deux. Donc quand vous aviez ce doute-là sur le regard, vous employez le terme le désir de l'autre. C'était juste un metteur en scène qui vous a pas désiré. Ça voulait pas dire que tous les metteurs en scène ne vous désiraient plus.
Non, bien sûr.
Donc vous étiez dans une période de doute dans le regard de l'autre.
Non,
que ce soit chez vous ou que ce soit dans le boulot.
Bien sûr, mais oui, je me suis trompée, je m'étais trompée de direction. Mais quand je parle du désir, c'est tous les comédiens sont dans le désir du metteur en scène.
On est d'accord, oui.
Voilà, c'est tout. Et je me suis dit, plus jamais. Moi, mon ambition, quand j'étais môme, à l'école, etc., qu'on me disait, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais pas, mais je veux que personne me commande. Je voulais être libre, c'est la pire des ambitions. Mais j'ai réussi, je suis mon propre... je suis afféodée évidemment à la lecture de, des uns des autres.
Vous ne dépendez pas de quelqu'un pour créer, pour travailler, pour avancer.
Je n'ai pas de réveil. D'accord. Pour moi, c'était mon ambition de ne pas avoir de réveil.
Une belle formule, joli, ça. Ouais. Très belle formule. Vous l'entendez, la manière dont elle parle, les images qu'elle emploie, et ça rejoint totalement le ton, l'esprit, l'humour, l'autodérision aussi, et le rythme de, d'un escargot tout chaud. Ce roman qu'on vous recommande, c'est chez Grasset. Comme le point de départ de votre roman, c'est un braquage raté, on a voulu demander à Julien Michelli, merci Julien de venir à ce micro, journaliste spécialisé en justice, chroniqueur judiciaire. Alors vous êtes chroniqueur où exactement? Parce que
je suis journaliste indépendant et j'ai
Dalloz Actualités, c'est ça?
Dalloz Actualités et Prix de Justice, qui est un site que j'anime de chronique judiciaire uniquement. Et puis plein d'autres sites d'actualité, mais uniquement en justice.
Vous avez fait de la prison?
J'en ressors à peine.
Ah, c'est ça.
Ça s'entend un peu. C'est la voix,
oui. D'ailleurs, j'ai une convocation au tribunal à 13h30, donc si on peut faire
vite. On va faire vite. Ouais. On parle souvent de braquage qui tourne mal. C'est le cas du roman d'Isabelle. Est-ce qu'il y a des braquages qui tournent mal? Alors évidemment, il y a aussi les drames. C'est-à-dire, il y a malheureusement des personnes qui sont décédées, des victimes. Mais il y a aussi des effets comiques. Il peut y avoir un effet comique, un braquage qui tourne mal, mais qui en devient drôle tellement il tourne mal.
Alors je pense que l'effet comique, on s'en rend compte après, mais il y a des braquages qui sont risibles du début à la fin, effectivement, et ça tient à l'amateurisme de la plupart des braqueurs.
Donc c'est généralement leur premier qui fait
et leur dernier, souvent, oui.
Oui, le dernier.
Il y a des exemples comme ça de braquages complètement fous.
Récemment, il y a un gars qui a braqué un bar tabac.
Oui, mais, et puis tout le monde a dit « Salut Dédé, comment tu vas ?»
C'est Dédé, oui. Il avait juste mis une casquette. Bah voilà, quoi.
C'est le
ridicule.
Vous avez des exemples?
J'ai pas mal d'exemples. Alors, il y a déjà cette histoire qui se passe à Périgueux qui est complètement dingue. Alors, elle débute ainsi, elle est racontée par la journaliste Mathilde Tournier. Elle débute comme ça. Il n'y a pas d'âge pour devenir hors la loi. Renaud avait 42 ans et il n'y est pas allé de main morte. Alors, l'histoire qui va suivre n'a vraiment aucun sens. Il s'est réveillé un matin avec le sentiment d'être persécuté. Il a traversé une rivière à la nage et il a foncé sur un cabanon pour y dérober des outils dont il voulait se servir pour forcer l'habitation attenante. Mais il s'est fait gauler par le propriétaire et il a pris la fuite. Il est alors foncé dans le premier bar tabac. Il est rentré, il est sorti, il est rentré, puis finalement il est arrivé. Il a fait « donne la caisse ou je te plante ». Il prend 500 euros et puis il voit un 4x4 garé au feu rouge. Donc il décide de le braquer avec son canif. Manque de chance, le véhicule est en panne, donc il file. On le retrouve un peu plus loin dans un autre quartier, dans un bar tabac où il a ses habitudes. Il prend son café et puis comme ça il décide de se ruer sur le serveur et de le braquer. J'ai plus rien à perdre, la caisse où je te plante. Il lui en voit, l'autre l'engueule un peu, mais vieux, t'as fondu les plombs ou quoi? Mais bon, il obtempère et il lui file la caisse. Et Renaud fonce sur l'autre caisse, celle qui a les jeux. Et il la braque également. Et là, alors là, c'est la débandade totale.
Il avait pris
un client met un coup de canne anglaise sur Renaud. Un autre lui saute dessus pour le maîtriser. Ceux de la terrasse qui entendent crier au voleur se jettent sur lui. Les billets volent, s'éparpillent. Le gérant de l'établissement déboule au même instant dans un crissement de pneus. Seule l'arrivée de la police donc permettra à Renaud d'échapper à la vindicte populaire.
Ça se passe en France, hein, tout ça?
Ah, ça, c'est à Périgueux, ça.
Mais il était sous emprise de substance.
Bah, justement, il disait qu'il était sous ecstasy, mais alors on n'a pas retrouvé trace d'ecstasy. Hein.
Non, alors, donc vous, dans vos chroniques judiciaires, quand vous voyez ce genre de situation, est-ce qu'il y a des points communs? Vous parlez d'amateurisme. C'est souvent des personnes qui sont au bout du rouleau, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait ça et qui craquent parce que le chômage, l'alcool, la drogue, des problèmes, l'exclusion, un sentiment d'être totalement à côté de la plaque dans la société. Ou alors ce sont des beaucoup plus jeunes qui essayent de faire, entre guillemets, leurs armes.
C'est plutôt la première catégorie qui est sur...
Des désespérés qui n'ont jamais fait ça.
Des désespérés ou des feignants qui pensent que c'est facile de braquer une caisse et de gagner quelques milliers d'euros.
Ça vous est venu comment l'idée de partir d'un braquage? C'est un fait divers que vous avez lu dans la presse, Isabelle Mergaud. Vous vous êtes dit, tiens, c'est drôle ça, je vais le mettre dans une histoire?
Non, j'ai rien lu, j'ai pas lu un fait divers comme ça. Non, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, bon, alors, si je me fais braquer et que voilà, c'est ça, la caisse où je te bute et que je dis, bah, allez-y, butez, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Alors, bon, il peut vous torturer, ça, c'est sûr que la douleur fait
un peu. Il peut surtout vous buter, tout simplement. Je comprends pas.
Bah oui. Mais un
braqueur qui dit, un gars avec un couteau qui dit, si tu fais pas ça, je te plante, bah, il peut vraiment le faire.
Oui, je crois pas. Bizarrement, je crois pas.
Oula, on va pas
je crois pas, parce que si c'est... Non, je ne...
Vous pensez qu'il ne joue que sur la peur de l'autre.
Oui, c'est pas la même chose que de vouloir voler de l'argent, que de tuer quelqu'un, peut-être. C'est pas les mêmes actions. Donc peut-être qu'il n'est pas si déterminé.
Tous les braqueurs ne sont pas des meurtriers potentiels.
Je pense que la plupart des braqueurs ne sont pas des meurtriers potentiels. On a même des braqueurs qui ont des armes factices. Donc des pistolets à billes ou des...
Vous avez un autre exemple?
J'en ai un justement, on a dans la Drôme, c'était un petit braquage d'une boulangerie, 300 euros, hein, donc les montants sont souvent très très modestes.
Non, vous travaillez pas à France Inter. 300 euros c'est une fortune, hein, monsieur. Alors, s'il vous plaît, doucement.
Dans ce village drômois, c'est pas grand chose, hein, c'est des bons. Et donc les gendarmes sont sur place et ils se font aviser par un jeune homme qui leur dit qu'il a vu le braquage, qu'il a vu la voiture partir et qu'il a même suivi, mais il s'est fait semer dans le village d'à côté. Donc les gendarmes l'écoutent, mais ça leur paraît louche, ils vérifient, ils le réinterrogent et finalement ils le confondent. C'était lui le braqueur qui a essayé de leur faire croire donc,
qu'il avait été témoin du braquage.
Ah, belle feinte.
Malin.
C'est bien tenté.
Avait utilisé un pistolet à billes, mais il a quand même pris deux dents fermes.
J'avais lu aux États-Unis, puisque maintenant dans les banques pour éviter les braquages, il y a des sas de sécurité depuis quelques années maintenant. Et donc il y a des caméras évidemment, et ils n'ouvrent la porte qu'une fois qu'ils ont vu le visage. Donc on n'a pas le droit d'avoir un casque de moto, une casquette, des lunettes, des trucs comme ça. Voilà. Donc il y a un monsieur qui rentre à visage découvert dans le sas, et une fois qu'il est dans le sas, comme il veut quand même faire un braquage, il met un masque de Mickey dans le. Il met le masque de Mickey et il ressonne. Donc imagine le mec dans sa banque qui voit juste Mickey qui sonne à la banque, qui juste appelle la police en disant venez, il est là quoi. Et le gars était bloqué dans le sas, coincé
tout seul,
avec des vitres par balles, il pouvait strictement rien faire. Non, mais il y a des.
Il n'y a pas que des prix Nobel. Hein.
Non, heureusement. J'ai envie de dire heureusement.
J'ai envie de dire, tu as raison.
Et j'ai envie de dire, on va y aller. Julien, vous en aviez une dernière ou avant la route ou pas, Julien?
J'en ai à foison.
Il y en a 712.
Il y a demandé,
mais ça, vous les publiez sur votre site?
Alors, celles-là, elles ont été glanées sur Internet, dans les différents sites de presse locale, ce qui en regorge. Mais sur mon site aussi, régulièrement, j'ai des
histoires. D'accord. Mais maintenant, les braquages de banque, ça n'existe plus. Il n'y a même plus d'argent dans les banques.
Bah oui.
Les braquages de banque, c'est effectivement rare. Maintenant, c'est les
fourgons.
Convoyeurs de fonds. Voilà, les fourgons.
Ou les bijouteries.
Ou les bijouteries, effectivement.
Ouais. Et il y avait l'arrachage des distributeurs des de billets aussi, des dabs. Ouais, c'était pas mal avec des grues. Moi, j'ai essayé, mais...
ta voiture est restée. Merci, Julien Micheli, d'être venu. Daniel, on voit bien que les braquages ratés, ça existe. Les braqueurs peuvent même tomber sur plus dangereux, plus dingue qu'eux. C'est j'allais dire les risques du métier, en fait, de ces braqueurs. Il y a une morale dans cette histoire, heureusement.
Oh, le malfrat, monsieur Guy est un bandit. Ah, bah maintenant, je comprends que Patrick Balkany, Émile Louis, Jérôme Cahuzac et Michel Fourniret soient les parents de vos enfants, monsieur Guy. Vous avez des références.
Dis donc, respecte ma femme.
Taisez-vous. Même si aujourd'hui, c'est vous qui mériteriez d'aller en tôle pour usage abusif de votre bouche pour dire des mots qui n'ont aucun sens. Car non, monsieur Guy, je suis désolé, ce que vous décrivez n'arrive pas. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Souvenez-vous, quand vous avez débarqué au siège de France Télé avec Igor, votre sniper bosniaque, pour récupérer une 28e case sur la grille de France 2, vous avez été accueilli par une ribambelle de déglingos allant de la brute Tex à l'incontrôlable David Pujadas, en passant par le plus terrible, celui qu'on surnomme le boucher serbe, Laurent Romeshko. Et pourtant, vous n'avez pas tremblé. Pas une seconde. D'un claquement de doigts, Igor a compris vos instructions, monsieur Guy. En une fraction de seconde, il a émasculé à grands coups de canine les enquiquineurs. À une attitude qui aurait beaucoup plu à un expert du braquage hyper violent, n'est-ce pas, maréchal Ganache?
Ah, ça c'est sûr. Le braqueur, c'est une race à part. Une race violente et sans merci, qui n'a jamais peur, qui en a dans le froc.
Et à quelle occasion avez-vous été braqueur, maréchal?
C'était en 54, au Tonkin. Autant
oui, poursuivez, s'il vous plaît.
J'étais retranché avec deux camarades d'armes légionnaires. Nous étions à bout de force, surtout eux qui devaient me porter, suite à la terrible mutilation du postérieur dont je fus victime. Quand nous arrivâmes à la lisière d'un village, taisez-vous. Un peu de respect pour ma différence.
C'était quel village?
C'était le village de Bonyakwe. En moins de 10 minutes, nous avons braqué tous les commerces du village. La banque, la monoprix et même le pressing.
Sans résistance?
Mais si, bien sûr que si, il y a eu de la résistance. Le Viet est teigneux, c'est bien connu. Ils ont attaqué avec des spatules en bambou. Heureusement, nous avions nos lance-flammes. Ça fut une véritable boucherie. 63 morts, tous grillés comme des saucisses.
Oh, quelle horreur.
Ah, c'était ça ou la mort, mon petit Morin.
Je comprends. Merci, Maréchal, de ce témoignage. Voilà, je crois que la démonstration est claire, monsieur Guy. Même énervé, une horde ne peut rien contre des braqueurs motivés. Désolé, mais une fois de plus, vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Nadine.
Et avec Isabelle Mergault qui est notre invitée, un escargot tout chaud, ce premier roman qu'elle signe chez Grasset. Est-ce que ce sont les éditeurs aussi qui vous ont fait un tout petit peu la cour après avoir vu votre travail, ou est-ce que vous êtes allé frapper vous à la porte d'éditeur en disant est-ce que j'ai une idée?
Oh non, on m'a jamais fait la cour, de rien.
Isabelle.
À d'autres.
On m'a jamais fait la cour de rien.
Non, d'éditeur.
Ah, d'éditeur, mais de rien, pas de rien.
Ah oui.
Elle est humble, elle est modeste.
Ouais. C'est une star
ancienne. C'était la semaine dernière.
Non, je l'ai envoyé à 3 ou 4 éditeurs, voilà. Je connais personne, moi, dans l'édition.
Mais quand on sait que vous avez été scénariste, que vous avez vu des films, c'est quand même bizarre que les éditeurs sont pas très malins pour le coup de pas être venus.
De pas avoir l'idée de vous proposer quoi.
Alors, il y a quelque temps, un éditeur m'a proposé, mais d'écrire sur moi.
Ouais, votre vie.
Mais j'ai rien à raconter, moi. Je lui ai dit. Il me dit, mais alors, on peut vous mettre quelqu'un qui écrira pour vous? Je dis, bah oui, mais faudrait que je lui dise déjà, j'ai rien. Et puis, ça m'intéresse pas.
On va s'échanger les noms en rentaine, parce qu'à mon avis, c'est le même que j'ai eu aussi.
Ah, mais d'accord.
En tout cas, là, vous l'avez écrite toute seule, ce livre, et vous l'avez écrit, pardon, tout seul, ce livre. Un escargot tout chaud, Isabelle Mergault, c'est chez Grasset, et on continue jusqu'à 12h30 d'en parler. Oui. Laetitia Gaillet reviendra vous informer toute l'après-midi, le journal de 13h.
J'espère bien.
Ah, oui. Sera à 13h. À tout à l'heure.
Ah,
c'est n'importe quoi. La bande originale, c'est la bande s'embrasse. Jusqu'à 12h30 avec Léla Cadeau-Boudelli.
Bonjour à tous.
Joséphine Braque. Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Abdou Abdou. Et Chabarra Cadeau-Clavier. Et notre invité est Isabelle
Bergot.
Isabelle, un escargot tout chaud, l'histoire d'un braquage dans une bijouterie, sauf que le braqueur est plutôt maladroit, malhabile, c'est visiblement son premier braquage. Et lorsqu'il arrive dans la bijouterie, suffisamment de personnes se retrouvent dans et de membres de la famille ou de voisins sont dans la bijouterie pour interagir et faire totalement planter son braquage. Parce que quand il dit l'argent ou la vie... C'est les autres qui vont s'en mêler.
Il n'y a pas d'argent.
Tout le monde va s'en mêler. Puis il n'y a pas d'argent, mais tout le monde va s'en mêler. Mais il peut y avoir des bijoux.
Peut-être ne dis pas trop.
En fait, on peut dire que c'est un braqueur qui est là finalement pour menacer de mort et qui va donner la vie à ces gens qui ne communiquaient plus et qui étaient dépressifs. Et alors ça a l'air très sombre et puis après.
En fait,
ça
c'est un accident. C'est un accident de la vie qui va faire que tout va redémarrer pour tous les personnages parce que chacun va ressortir avec une expérience.
Oui, et puis surtout ce couple qui ne se parlait plus va retrouver le dialogue.
Et c'est rondement mené et c'est vraiment très beau. Voilà, bravo.
Rose et Philippe, et il y a beaucoup d'humour et c'est extrêmement drôle. Est-ce que vous êtes posé la question du degré de vanne, du curseur? Est-ce qu'il faut que ce soit dramatique, drôle, pas trop drôle pour que quand même on voit qu'il y a des choses vraies et sincères?
Non, oui, je me suis un peu censurée parce que c'est pas le théâtre, c'est pas la vanne pour la vanne, quoi. Alors il y avait des dialogues qui étaient trop pour faire rire, quoi. Et donc que j'ai enlevé, quoi. Oui, j'ai mesuré. Je me suis pas censuré, mais j'ai mesuré.
Vous voyez que la version théâtre est prête.
Pas pour moi, en tout cas. Si quelqu'un veut l'adapter, oui, mais moi, non.
Non, mais les vannes sont déjà là, en tout cas. Et il n'y a pas que de la vanne, il y a le côté très, très émouvant de personnes totalement paumées et qui, que ce soit paumées parce que des rapports avec les parents difficiles, paumées parce que deuxième partie de leur vie, le couple ne va plus très bien.
Et puis paumées parce que parfois on est paumé, on n'a pas de raison pour l'être, hein, et on est juste paumé, quoi. Cette vieille dame là qui est là, qui me fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est qui est morte, et j'ai toujours cette image en tête. Elle se coiffait le devant.
C'est drôle ça.
Et l'arrière était toujours aplatie parce qu'elle était sur son fauteuil.
C'est ce qu'il y a dans le livre.
Ouais,
ce
que vous avez et je la voyais sortir comme ça et je me disais, mon Dieu, il faudrait que. Mais ça me dégoûtait un petit peu de la toucher. C'est marrant parce que elle devait avoir 14 ans et on a un rapport à la vieillesse, on est attiré par les grands-parents et en même temps, ça dégoûte un petit peu.
Isabelle avait 14 ans.
La peau flasque.
Oui. Vous avez dit que votre grand-mère avait 14 ans.
C'est Isabelle qui avait 14 ans.
C'est ça qui était
bizarre. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas compris?
Moi j'ai eu un doute, j'ai dit attends, okay,
c'est pour ça que je me suis autorisée.
J'avais 14 ans et je la vois partir comme ça, je me dis mais oh, je pourrais prendre mon peigne et puis lui dire attends, Gabi, t'es mal coiffée derrière. Mais j'avais pas envie de la toucher non plus de trop et puis elle est morte et je me suis dit dire que je lui ai jamais coiffé l'arrière.
Ah, c'est comme moi.
Moi, depuis la fin de la guerre, ma grand-mère était tondue, donc j'ai pas eu ce.
C'est l'humeur de Daniel Morin.
Bravo.
Oh, quelle histoire.
Merveilleux.
Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais il est arrivé avec de l'avance. Oui, le printemps est là.
Oh mon Dieu, que c'est bon!
Ah, Père Albert, ça va?
Oui, je kiffe. Moi, quand les beaux jours arrivent, ça me met en joie.
Alors ok, je comprends votre enthousiasme, mais est-ce une raison valable ou suffisante pour vous habiller de la sorte?
Comment ça?
Mais c'est quoi cette soutane?
Oh ben, c'est ma mini-soutane, pour quand il fait chaud. Les femelles ont des mini-jupes, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de mettre une mini-soutane.
Oui, peut-être, mais là c'est... Court.
Vous trouvez?
Ah bon, on voit vos fesses, Père Albert.
Oh, disons qu'on devine la lisière de mon humble croupion, l'oreille de mon sif, mais ça reste très chaste.
Non.
Et puis...
Oh non.
J'ai rajouté ça.
Et puis j'espère... Sif ammoniaque
et
alors.
Et puis... Siphonner surtout. Et puis j'espère que vous avez remarqué le petit plus.
Quoi donc?
Eh ben, regardez mieux.
Mais je vois rien.
Mais justement, on ne voit rien. Je me suis fait épiler hier soir. Épilation intégrale, totale. Je suis comme Nagui, lisse et doux comme un poisson mort. Touche.
Ah non.
Si, vas-y, touche.
Ah oui, c'est doux.
Mais oui, c'est plus que doux, c'est soyeux. Soyeux et pratique. Quand je sors de la douche, je n'ai plus de gouttelettes accrochées au poil de mes cuisses. Ça n'a l'air de rien, mais quand on est très velu comme moi, c'est un enfer. D'habitude, à la sortie de la douche ou du bain, je suis obligé de m'ébrouer comme un labrador. J'en fous partout.
Et vous allez faire quoi aujourd'hui pour fêter le retour de Beaujo?
Oh ben, je vais sûrement aller me promener à la recherche de compagnons de jeu. L'année dernière, j'ai été à Aqua Boulevard. Je me suis régalé. J'ai rencontré l'Association des pianistes gays d'Île-de-France. Le président, Richard Lornac, était présent. Il portait un string fuchsia. Il avait beaucoup d'allure.
Et vous n'en profitez pas pour aller vous promener dans la nature?
Bien sûr que si. Je suis très proche de la nature. Tu le sais, petit coquin. Ouais. L'année dernière, mon ami, Monseigneur Di Falco, m'avait invité dans les jardins de son presbytère pour y faire la lecture de jeunes séminaristes en recherche migrants clandestins.
Et alors?
Alors c'était formidable, Daniel. Sous un soleil accablant, je leur lisais les mémoires de Jean-Marc Morandini. Un livre formidable, sublime d'émotion et de tendresse. Un bouquin intitulé « Rêverie solitaire dans les sanitaires ». Jean-Marc y raconte les aventures d'un jeune cinéaste perdu dans les douches collectives et qui rencontre l'amour avec une meute de jeunes footballeurs déchaînés.
Les jeunes séminaristes migrants ont-ils apprécié au moins l'histoire?
Ils ont adoré. Le récit d'une haute densité érotique les a transportés. Ça, plus le spectacle de Di Falco qui, pendant que je lisais, dansait nu comme une petite traînée, ça les a excités comme des scouts.
Eh ben.
Ça, plus la moiteur ambiante, ils étaient en feu, les petits saligots.
Là, j'espère que vous les avez grondés.
Mais oui, bien sûr, je les ai houspillés comme il se devait. Je les ai tensés tout en étant pédagogue à la fois.
De quelle manière?
Je les ai réunis et je leur ai dit... C'est mal! C'est très mal de vous laisser habiter par de vilaines pensées, bande de petits gorées. Le Seigneur condamne ces comportements bestiaux qui vous transforment en bêtes sauvages obsédées par le rite. Honte à vous! Honte à vous, mécréants! En même temps, avec l'arrivée des beaux jours, tout cela est, ma foi, fort normal. La montée de sève n'est pas réservée aux seuls buissons, fougères et pâquerettes. Vous aussi, vous sentez poindre les bourgeons de la Renaissance printanière. Vous aussi, vous sentez que votre corps en émoi est pris de frissons et d'une douce sensation de vous rapprocher de vos semblables, de les enlacer, de les câliner, de vous rouler dans l'herbe avec eux, de chahuter, de vous frotter les uns aux autres et pourquoi pas de disparaître avec un ami derrière un bosquet complice. En guise de paravent, pendant que sous le regard intrigué des musaraignes et des furets de passage, vous apprendrez à découvrir vos corps en feu. Allez-y, bande de petits salauds, allez-y, mais laissez-moi regarder.
Sacré serment, mon père, merci. En ce qui concerne les non-prêtres, hein, sachez qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il fait beau que vous pouvez tout vous permettre. Je rappelle à ceux qui l'ignoreraient encore que le port des pantacours, des claquettes de maître nageur et des bardeurs sont totalement interdits passé l'âge de 8 ans. Au-delà de 8 ans, c'est une atteinte esthétique, une agression visuelle qui mérite largement, je dis largement, la peine de mort. Oui. Bonne journée quand même, à demain.
Merci. La bande originale, Nadine.
Isabelle Mergaux signe son premier très bon roman, Un escargot tout chaud, publié chez Grasset. Vous devez avoir donc une homonyme et un sosie qui sera le 12 avril à l'affiche du film C'est beau la vie quand on y pense.
Ah oui, c'est
là. Puisque vous avez refusé le désir dans le regard de Gérard Jugnot.
Non, alors je lui ai dit, alors il m'a dit, est-ce que tu veux jouer dans mon film? Je dis, écoute, Gérard, tu sais très bien que je ne joue plus, c'est un pince-homme pour moi, c'est une corvée. Il me dit, mais tu feras ma maîtresse. Ah, je dis, oh, bah alors. Mais je ne te toucherai pas. Oh, bah alors encore plus. Non, mais je ne sais pas, il m'a...
Il vous a eu.
Oui, il m'a eu. C'était un tournage très sympa. Et puis, j'étais décontractée. Vous savez, quand vous ne voulez pas en faire votre métier, quand il n'y a pas d'enjeu, bah, finalement, vous vous amusez. Puis, c'était très agréable.
C'est un point commun que vous avez avec François Fillon, alors. Plus jamais. Et puis, vous y revenez.
Oui, mais moi, je ne croquais personne. Hein.
C'est beau la vie quand on y pense sortira le 12 avril, un film 2 et avec Gérard Jugnot et aussi donc Isabelle Mergaux. J'imagine que le cinéma, ça vous gratouille un tout petit peu aussi. Vous écrivez votre prochain long métrage?
Ça y est, il est écrit. Il n'y a plus qu'à le faire. Voilà,
ça parle de quoi?
Avoir les financements, etc. C'est pas moi qui me...
Qui vous occupez de ça? Non, c'est les producteurs, j'imagine.
Ouais. Oui, parce que alors là, moi, je suis très mauvaise pour vendre quoi que ce soit. Donc, heureusement que j'ai un producteur qui vend pour moi.
Vous avez le titre?
Oui. Tes mains sur moi.
Tes mains sur moi. Pas tes minces.
Donc, oui, j'avais compris mince. Ça aussi.
Oui, ah. Tes minces.
Oui, j'avais entendu tes minces d'abord.
Ah.
Tes mains sur moi.
Oui, tes mains. Les mains. D'accord. Comme tes cinq doigts.
Comme tes mains sur
les
hanches. D'accord. Tes mains. D'accord. Tes mains sur moi.
Mince, Urmoi, ça ne veut rien dire non plus.
Oui, en plus.
C'était bon, monsieur, madame, Urmoi, on t'a un fils, ils l'ont appelé tes minces. Et vous, ça parlera de quoi?
Ça parlera d'un homme, d'un grand intellectuel qui va rentrer à l'Académie française, mais qui souffre d'un mal de dos qui est insupportable au point qu'il doit prendre de la morphine, et puis qui va tomber sur une rebouteuse et une femme très simple et qui va le soigner, qui va poser ses mains sur lui, et voilà, et ça va être le rapport de ces deux personnes.
Que tout oppose a priori.
Oui, que tout oppose. Mais comme j'aime pas cette formule, ouais. Ça va être le rapport de ces deux personnes.
Très bien. Tes mains sur moi, donc à suivre. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadraboudali pour Isabelle Mergaux.
Isabelle, je sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Ce qui est curieux chez vous aujourd'hui, je tiens à dire Isabelle Mergaux.
Dites-moi.
Non, parce que je vous connais très très bien. Ouais. Il faut dire Marcella, pardon, de m'intéresser un peu à ma copine, parce qu'elle fait partie de...
Bah, vas-y, excuse-toi.
C'est vous dans les grosses têtes, en pleine crise de jalousie vis-à-vis de Marcella Yacoub. C'est un moment assez drôle avec Laurent Ruquier. Un échange qui résume bien votre complicité. Vous avez joué dans ses pièces, vous avez été quasiment toutes ses aventures médias. C'est assez rare dans ce milieu, cette fidélité comme ça, qui se poursuit. Est-ce que vous êtes jalouse en amitié, justement? C'était un petit jeu, mais est-ce qu'il y a une forme de...
Non, c'est un jeu.
C'est un jeu.
Je ne suis absolument pas jalouse de et surtout des femmes. J'aime les femmes. Mmh. Au pire que je puisse, c'est être envieuse. Parfois, j'envie, mais dans envie, il y a vie, quoi. Mmh. C'est positif, quoi. Mais je peux pas être jalouse d'une femme. J'aime trop les femmes. Elles, ce sont mes sœurs, quoi. Voilà.
Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, d'ailleurs, là.
J'aime écrire pour les femmes.
Ressent dans ce studio.
Moi, je le ressens beaucoup.
Mais en tout cas, moi, personnellement, je le ressens. C'est le regard que vous posez sur Joséphine ou sur moi est un regard bienveillant. Et c'est important de le souligner. Et
pourtant, il y a de quoi rire.
Oui, j'allais dire, j'ai laissé à Daniel.
Et pour en revenir à Laurent Ruquier et à votre complicité, ça veut dire que demain, il se lance dans une autre aventure et vous le suivez quoi qu'il advienne. Comment ça marche entre vous?
quoi qu'il advienne, si je me sens à ma place, oui, mm-hmm. oui, mais en général...
Vous lui avez déjà dit non ?
Oui. oui, pour une pièce de théâtre qu'il a écrite et je ne la sentais pas. Et on s'est fâché, on se fâche pendant un an, mm-hmm. et après on se reparle.
Comme un petit couple en fait, voilà, un peu de cet ordre-là, voilà, comme les vieux couples. On poursuit avec un autre son pour vous, Isabelle.
J'ai l'impression de me caricaturer depuis pas mal de temps, de jouer mon propre rôle et tout. Je me fatigue toute seule et donc j'ai l'impression de fatiguer un petit peu. C'est pour ça que je suis très bien sur scène, dans un rôle, en représentation, mais moi-même, moi, Isabelle Mergault, je m'ennuie un petit peu et je ne m'intéresse pas vraiment.
C'était en 2014 et je me demandais...
Ah bah j'ai pas de chance,
c'est vrai.
Ça ne tient pas si longtemps. Hein.
Ce roman, en fait, c'est aussi une façon de ne pas vous ennuyer avec vous, c'est d'aller plus loin. Est-ce que dans se lancer dans l'écriture là, comme vous le faites, avec brio en plus, c'est une façon de se dire, tiens, je me détache de moi, de mon petit moi?
Ben oui, parce que vous rentrez en vous-même pour écrire, hein, ça c'est. Mais dans mes personnages, mm-hmm. quoi. C'est pour moi rien n'est plus insupportable que de devoir parler des anecdotes qui me sont arrivées. Voilà, je suis à l'aise pour parler des autres, parce que en parlant des autres, je peux aussi parler de moi, mais moi je ne sais pas le faire. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas, je trouve pas ma vie passionnante. En revanche, mes personnages que j'invente, je les adore et je les trouve passionnants. Oui.
Et en parallèle de l'écriture, parce que là c'est une autre corde à votre arc, pardon, est-ce que vous avez une passion, quelque chose qui vous envahit, je sais pas, ça pourrait être de la peinture, de la musique, quelque chose vraiment qui peut vous obséder par période, même si c'est pas sur toute l'année, pour mieux vous connaître vous. Vous.
Ou des brocantes,
non. Ou autre chose. À part Twitter.
Non. Le bricolage, non. Le jardinage.
Non, mais j'ai pas de passion et je me dis à un moment donné qu'il faudrait que je m'en invente une pour répondre.
Bah non.
Mais non, la seule passion, je suis contemplative mm-hmm. et je ne me lasse pas de regarder, de marcher et de regarder. J'ai la chance d'habiter sur les bords de la Marne, donc c'est magnifique, où il y a des cygnes qui se... Oh là là, c'est la saison des amours en ce moment. Mais alors, les cygnes, ils sont violents. Vous savez ce qu'ils font ? Le cygne se met sur la cygne. Et il lui foule la tête dans l'eau. Elle est en apnée. Et voilà, que je te besogne. Et alors, ça n'arrête pas et ça hurle.
J'ai vu le film, mais... c'était génial.
Pas bon, bref. Et moi, j'adore l'horizon.
Je te le rende.
J'adore, voilà. C'est ma passion d'être seule avec mon chien et de regarder au loin. Ben, voilà.
Est-ce que vous travaillez facilement, vous écrivez facilement ou c'est laborieux, mais...
C'est... Non, il faut... Je réfléchis longtemps. Alors, je regarde dans le frigidaire ce qu'il y a à bouffer, je me fais du thé, je réfléchis, je regarde au loin, par la fenêtre et tout. Et à un moment donné, ok, j'y vais. Et là, ça peut aller très vite. Je peux écrire 5 pages très, très vite. Et puis après, je suis crevée, je vais regarder une série à la con où ils font avec des cotons-tiges, ils relèvent les empreintes, là, et puis ils trouvent tout de suite qu'ils
s'est
experts.
Voilà, c'est ça. Moi, je ne savais même pas. Moi, j'ai des cotons-tiges. Ce n'est pas du tout pour ça que je m'en sers. Enfin, bon, bref. Et puis, voilà. Et puis, je bouffe. Et puis, je regarde ça. Je m'abrutis. Mais je ne suis absolument pas régulière. Ça peut être à 2h du matin. Ça peut être à 7h du matin si je me suis réveillée tôt. J'ai pas de... C'est un
ça peut être sur l'ordi comme papier-crayon ou
c'est... Oui, c'est sûr. C'est les deux. C'est un peu de papier, un peu d'ordi. Un peu... C'est un peu le foutoir. Je ne suis pas du tout organisée.
Et pour finir, je vous fais un petit cadeau, Isabelle. C'est Solange te parle aux éditions Petite Biblio Payot Irrésistible. Solange te parle, vous la connaissez sûrement, elle a une chaîne YouTube qui marche très très bien, elle a cumulé plus de 30 millions de vues
wow.
Sur ses vidéos. Solange, c'est un pseudonyme, son vrai nom c'est Ina Mialach, elle a 31 ans, elle est comédienne et elle est artiste plasticienne et elle réalise depuis le Québec des vidéos, elle est installée en France maintenant, des vidéos où elle nous parle un peu de tout. Nous allons sans doute être amenés amener à gémir si nous nous aimons. C'est un peu des fulgurances de Solange. Elle peut avoir des réflexions.
Le personnage justement de Chloé.
Oui, il y a des parallèles.
Sur le gémissement, sur les râles. Ça, j'adore.
Et elle peut faire des petites chroniques sur de l'art d'accueillir une bonne nouvelle, par exemple, à la nécessité de savoir dire je t'aime à quelqu'un, de s'interroger sur le sexe masculin, par exemple, ou encore du droit à la différence, de notre image, de notre sensation d'être inadapté à la société. Et voilà, c'est pour vous.
Super, merci beaucoup.
Eh ben, on rejoint le désir de communiquer dont vous parliez tout à l'heure. Isabelle signe donc un escargot tout chaud. C'est chez Grasset. Voici Delight. C'est dans votre bande originale avec Groove et
The Art.
Dig. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another.
That's right.
Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
Groove in the Heart, c'est dans votre bande originale sur Inter. Isabelle Mergaux est notre invitée avec un escargot tout chaud. Vous l'avez compris, ce roman qu'on vous recommande. Ça serait bien qu'il y ait une suite d'ailleurs, hein, parce que il y a un petit goût de trop peu à la fin.
Toi, t'en veux toujours plus.
Bah oui.
Bah dis donc tous les deux, ça.
Non.
Il y a juste ce qu'il faut, moi, je trouve.
Non, il y aura pas de suite.
Bon. Désolé, Daniel Morin, on n'a pas le temps pour les je sens que je vais recevoir.
Désolé pour tous les patrons de restos chinois, les patrons d'assiettes des marchés de Provence qui ont été vexés d'être comparés à Bernard Pivot. Heureusement, on n'était pas en direct, tout ça sera coupé, bien entendu. Désolé pour tous les amoureux de sexe violent, excités par l'histoire des cygnes qui copulent violemment et en apnée. Non, la zoophilie est interdite en France, attention. Eh oui, Nagui. Désolé pour tous les poètes en herbe qui se voyaient déjà, comme les futurs Ronsard ou Rimbaud. Eh non, les gars, non. Le prochain Baudelaire a dégainé ce matin.
au banc du mât de la vie de ces personnes.
Au banc du mât de la vie de ces personnes, c'était Nagui, maintenant surnommé le Capitaine Igloo de la poésie marine.
Demain, nous recevons Claude Sérillon pour parler poésie, justement, aussi.
Claude.
Merci Isabelle Mergaud, portez-vous bien.
J'espère merci à vous.
Merci et bravo.
Philippe Bertrand pour les carnets de campagne, c'est maintenant.
Merci, oh, il est chaud, mon escargot. J'espère que c'est un escargot.
Ça va pas, non.
Non, mais ça va pas. Isabelle,
ça veut.
Oui, ça va. J'avais une question quand même, Isabelle.
Oui.
Est-ce que, Isabelle, vous avez un lien de parenté avec Louis Pergaud?
Avec
Louis Pergaud.
Non,
non. Non, d'accord.
C'est Isabelle,
c'est pas Isabelle Pergaud.
Pergaud et Mergaud, je pensais que c'était. Non.
Oh là là là.
Bon, allez, salut. Ouais, oh là là là. Je sais.
Allez, bonne route.
Courage.
Bonne chance.
Il n'y a pas des excuses à la fin de l'émission de Philippe Bertrand.
Je vais revenir dans un quart d'heure.
Ah, c'est l'heure de la bourse.
Allez, on y va.
Salut.